chaque dimanche de Pâques a sa tonalité propre, un thème qui lui correspond, on pourrait dire d'une certaine façon, sa coloration. Chaque dimanche de Pâques a sa tonalité propre, mais qui ne fait jamais que déployer et approfondir ce que nous avons célébré le jour de Pâques, ce qui est la réalité même de Pâques, ce qui est la joie de la résurrection. Je vous ai dit cela, dit Jésus, pour que ma joie soit en vous. La joie des cieux qui vont s'ouvrir, qui se sont ouverts au jour de l'ascension. La joie de la résurrection, d'être appelés nous-mêmes à ressusciter avec le Christ, par lui, avec lui et en lui. La joie d'entrer avec lui, avec le Christ, par le Christ, dans la vie du Père. Chaque dimanche de Pâques a sa coloration. Le deuxième dimanche, c'est le dimanche de la miséricorde. L'amour qui pardonne. Le troisième dimanche, nous avions un évangile d'apparition de Jésus ressuscité. C'est d'une certaine façon le dimanche de l'humanité retrouvée. Je vous disais qu'il nous faut être humain, assumer notre humanité, humain avant d'être chrétien, revenir sur terre pour aller au ciel. Le quatrième dimanche, c'est celui probablement que nous connaissons le mieux, le dimanche du bon pasteur. Sur des verts pâturages, il nous fait reposer. Et je vous disais qu'il nous protège de l'oubli et du doute. Il nous permet de vivre la joie de l'instant présent. Dimanche dernier, le cinquième dimanche, c'était la parabole de la vigne qui dit notre lien vital au Christ. Et dans un des commentaires qui a été fait par la tradition, par Saint Cyril d'Alexandrie, de cette parabole de la vigne, Saint Cyril disait « Ce qui nous unit au Christ, c'est l'Esprit Saint ». Belle image de la vigne où l'Esprit Saint, c'est la sève qui nous fait vivre. Et voici qu'en ce sixième dimanche, nous devons franchir un nouveau pas dans la connaissance de l'amour, dans l'entrée dans ce mystère de Dieu, par ce qui est l'égalité entre nous. Nous allons fêter dans quelques jours l'ascension du Christ, la troisième plus grande fête de l'année pour le Seigneur, après la nativité et la résurrection, après Noël et Pâques. Nous devons préparer cette vision et cette entrée de notre humanité glorieuse dans le ciel. Et ce sixième dimanche nous met d'une certaine façon au pied du mur avec le commandement de Dieu de vivre à égalité les uns avec les autres, à égalité dans l'amour. La première lecture en donne une expression tout à fait remarquable quand Pierre, voyant Corneille, ce centurion romain, qui se prosterne à ses pieds, lui dit « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Pendant longtemps, pendant des siècles, l'usage des fidèles catholiques a été, quand ils rencontraient leur évêque ou un évêque, de plier le genou, marquer une sorte de génuflexion, de prendre sa main et de baiser l'anneau épiscopal en disant « Monseigneur ». J'ai vu plus d'un évêque un petit peu gêné aux entournures, ne sachant pas trop quoi faire. Je n'en ai jamais entendu, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, je dis simplement que je n'en ai jamais entendu dire « Je suis un homme comme toi ». Je ne suis pas sûr qu'il le pense. Les honneurs rendent fous. Dans tous les domaines, y compris dans l'Église. Je vois bien, moi-même, quand je sursaute intérieurement, quand on m'appelle monsieur. Et alors, qu'est-ce qui importe? La fonction ou la personne? L'utilité sociale ou communautaire ou la relation personnelle? Cette première lecture que nous avons, un peu composite, est tirée d'un des cinq discours qu'on appelle des discours missionnaires, un des cinq discours de mission de Pierre dans les Actes des Apôtres. Il y a un total de 8 discours de Pierre dans les Actes des Apôtres. Il y en a 5 qu'on appelle des discours missionnaires parce qu'ils sont à peu près la même structure, ils sont tous centrés sur la résurrection du Seigneur. Le premier, c'est le plus connu, c'est celui du jour de la Pentecôte. Nous avons eu au quatrième dimanche un passage du deuxième de ses discours après la guérison du boiteux de la Belle Porte. Et voici qu'on a le dernier, qui fonde nos relations entre nous, aussi bien dans l'Église qu'avec le monde, avec ces mots puissants, Dieu est impartial, Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, il accueille, quelle que soit la nation, l'ancienne traduction disait « quelle que soit la race », on ne peut plus utiliser ce terme, il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. On pourrait dire en termes actuels, il accueille, quelle que soit la religion, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes, celui qui pratique sa foi et qui pratique la justice. Dieu ne demande que deux choses. Que nous le prenions au sérieux. Saint Paul, dans la lettre aux Galates, dit « Dieu ne se laisse pas narguer ». Le prendre au sérieux et que nous aimions autant les pauvres que les riches, les faibles que les puissants, les petits que les grands, que nous ne nous risquions pas à mépriser ni les faibles ni l'autorité, que nous puissions vivre réellement à égalité entre nous, entre pauvres et riches, entre le natif et l'étranger, entre l'homme et la femme, et on pourrait énumérer toutes sortes de distinctions. 7 siècles avant le Christ, le prophète Michée annonçait en des termes très semblables ce chemin de vie. Homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. Respecter le droit. Constatons la difficulté actuelle que nous avons à le vivre de façon très simple, concrète, quotidienne. Au point que nous devons quand même nous poser la question, et si c'était par méconnaissance de Dieu que nous avions tant de mal aujourd'hui à respecter le droit, à faire ce qu'on nous demande, ce qui est légal, réglementaire, si c'était d'un manque de foi que viendrait notre propension croissante à transgresser toutes les lois. Voyez comment le Christ, dans sa révélation de l'amour de Dieu, reprend si fortement et si précisément le vocabulaire de l'Ancien Testament, qui est le vocabulaire du commandement et de l'obligation. « Je vous commande, dit-il, je vous commande de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il utilise ce vocabulaire pour une raison simple. La loi est ce qui nous met à égalité. Nous ne sommes pas à égalité dans la vie. Par nos origines, par aussi bien physiquement, moralement, toutes sortes de différences et d'inégalités, nos talents. Mais nous sommes à égalité devant Dieu et devant la loi. Homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que de respecter le droit. Aimer la fidélité. Et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Alors certains ajoutent, mais même si ce Dieu n'est pas le vrai Dieu, peut-on vraiment dire que Dieu accueille celui qui le craint et dont les œuvres sont justes, quelle que soit sa religion ? Mère Teresa répondait oui, catégoriquement oui, qui a montré que notre mission est d'aider les pauvres à mener une vie digne et apaisée. Vous savez qu'on lui posait sans cesse la question de ses motivations, des raisons pour lesquelles elle offrait ce service si discret, si effacé. Qu'est-ce qu'elle cherchait ? Est-ce qu'il y avait des motivations cachées ? Est-ce qu'elle cherchait ainsi à évangéliser ? Et elle répondait non ! Ce qu'elle voulait, c'était aider la personne hindoue à vivre en meilleur hindou, le musulman à vivre en meilleur musulman, le chrétien à vivre en meilleur chrétien, dans le respect de la conscience de chaque personne et de la loi. C'est le critère qui nous sépare des fanatiques. Ce qui nous sépare des fanatiques, c'est le respect de la loi. Alors oui, on sait qu'on peut et même qu'on doit, dans certains cas, qui sont vraiment rares, désobéir et qu'on doit le faire en conscience quand la loi, pour une raison ou une autre, pousse au péché. Et c'est l'unique cas. C'est ce que dit Pierre d'ailleurs dans un autre de ses discours de mission, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dans certains cas très particuliers. Est-ce que le fanatique peut agir en conscience ? Par définition, non. La définition même du fanatique, c'est qu'il est pathologiquement exalté. Il n'y a pas que les honneurs qui rendent fous. Il y a bien davantage les déshonneurs, le sentiment de déshonneur. Qu'est-ce qui rend fou ? C'est le manque de considération, le sentiment de rejet, de mépris, d'exclusion. Ah ! Si chaque personne pouvait expérimenter au moins une fois dans sa vie l'amour dont elle est aimée par Dieu. Au moins une fois dans sa vie, voilà quelle devrait être notre prière. Parce qu'ensuite, elle ne l'oublie jamais. J'ai encore rencontré une personne cette semaine dont la vie a basculé, qui a dit, elle a fait cette expérience, l'expérience personnelle de l'amour de Dieu. Si chaque personne, voilà quelle devrait être notre prière incessante, si chaque personne, quelle que soit sa nation, sa religion, son origine, sa situation, pouvait expérimenter au moins une fois dans sa vie l'amour d'un tel aimé par celui qui l'a créé, par celui qui est venu donner sa vie pour la sauver et pour la sauver de la haine. De quoi est-ce que le Seigneur nous sauve ? De la haine. Celui qui craint Dieu et dont les œuvres sont justes est déjà sauvé. Dieu aime les croyants qui respectent la loi.